pour revenir sur cet aspect de résistance, il y a deux exemples. Donc, à la fin, je suis allé voir LinkedIn. J'ai fait pour la première fois le profil de LinkedIn pour avoir un peu ce mécanisme qui est plus spécifique à travail. C'est le lien très très évident entre les réseaux sociaux et le travail. Et lui, c'était la première fois pour moi à voir comment être organisé et comment il marche ce réseau. Mais c'est intéressant parce que, en termes vraiment du travail et de travailleurs de production, c'est très très évident. Justement, c'est la fonction de ce réseau, c'est pour ça, c'est pour. Question de travail. Donc, on sait le profil, c'est avec la finalité du support proposé comme travailleur. Non? Mon profil, c'est vraiment mon résumé. Non? C'est un résumé
dynamique.
Exactement. Et donc, là, tu as vraiment des qualifications pour évaluer, pour prendre au fond pas, pour une société ou tout ça. Mais le deuxième point, qui c'est encore de plus, une expression encore de plus, je crois, que c'est la conception de la société dans le réseau de LinkedIn. Parce que ils sont tous les travailleurs d'une certaine société, d'une certaine compagnie. Ils créent un réseau, non, pour cette société. Donc, nous pouvons voir la société pas plus comme une société avec une salle et un bureau, je ne sais pas, mais c'est la société devient directement, immédiatement, mon réseau. Non? Donc c'est la décomposition, je ne sais pas, dans un certain niveau de la société qui vivent automatiquement un réseau social. Et très clairement, après, il y a des autres formes de décomposition à l'issue de ce mécanisme-là, mais c'est très très clair qui. C'est la direction de l'organisation du travail, c'est de là. Pas seulement pour les personnes, les individus, les travailleurs, mais aussi par les sociétés. Les sociétés indépendantes dans les réseaux sociaux. Donc voilà.
Mais je pense que c'est pas lié à une seule société, hein. Il y a plein d'entreprises en fait.
Oui, oui.
Enfin, il y a plein
de LinkedIn. Oui, exactement.
En fait, c'est un carnet d'adresse.
Oui, oui, c'est tous les profils. Avec 10 profils d'une certaine société, il y a une société. Et donc, je sais pas, la 20e personne qui dit oui, je travaille ici aussi avec cette société, il devient de plus en plus un réseau social plus grand. Donc, voilà, c'est intéressant. Et bon, et la partie ultime ici, c'est. C'est forcément la question de.
Question pour ce site-là. Est-ce que tu peux, en tant qu'individu, t'adresser en même temps à tous les gens qui font partie de ce site?
Oui, à tous tes profils, à tous tes liens aussi.
Non, sur LinkedIn, non. C'est-à-dire que tu peux t'adresser aux gens que tu connais.
Aux gens qui sont dans ton monde.
Et créer un lien avec les gens que tu connais. D'ailleurs, elle te propose pourquoi tu veux contacter cette personne. Parce qu'il a travaillé avec toi, parce que c'est ton copain d'école. Ouais. Évidemment, si tu t'adresses à une personne que tu ne connais pas, elle ne t'arrête pas.
Même si
c'est, je suis travailleur de. Je ne sais pas, dans mon profil, j'ai Jason, blablabla, avec le réseau Google, non, par exemple, le réseau McDonald's. Et il n'y a pas un mécanisme que je peux regardait envoyait des messages à tous les autres des
non, mais tu n'as pas un lien directement un lien commun avec quelqu'un d'autre. Si par exemple c'est un deuxième degré, il faut que tu connaisses l'adresse de l'email de celui que tu veux inviter. Tu ne peux pas l'inviter à travers le réseau.
Okay.
Il y a une obligation. S'il y a un lien direct, c'est que si lui il t'a déjà identifié, tu peux le faire.
Mais donc la personne.
Si tu es un deuxième degré, tu peux prendre ce
lien. Oui.
Il n'y a pas le lien direct. Il te demande si tu as une adresse email de la personne pour pouvoir lui envoyer une invitation.
Et dans ce sens, c'est que les gens font. Moi, je vois des gens que.
Il n'arrête pas de m'inviter, mais il m'invite sur ma mauvaise adresse, donc je ne réponds jamais.
Qui utilise, par exemple, moi, c'est que. Il y a des gens qui me disent, moi je n'utilise plus les cartes de visite. Quand je rencontre quelqu'un, fini la rencontre, ou pendant la rencontre, etc., je lui envoie, parce qu'il y a une réunion de travail avec un partenaire, avec un client, n'importe quoi, quelqu'un qui est poussé une fois, j'ai changé les cartes de visite, je lui fais une invitation sur LinkedIn. De toute façon, c'est plus pratique, tu sais, autrefois, on regardait toutes les cartes de visite, etc. Mais aujourd'hui, c'est un contre, c'est ça. Et deuxièmement, c'est quand tu veux faire de la recherche du travail, c'est une façon, à la limite, même anonyme, de positionner sur un poste de travail. Comme candidat, tu as déjà ton CV.
Mais donc, je suis le propriétaire de Mutalent, non? Et j'ai un profil de société en LinkedIn. Et donc j'ai 100 personnes qui
sont. Non, ça ne marche pas, ça. Tu ne peux pas obliger tes 100 collaborateurs d'aller dans LinkedIn.
Non, ok. Mais ils sont. Bon, je vais vous dire, parce que c'est une question de l'organisation de réseau. Parce que, bon, il y a toutes les personnes
de LinkedIn, oui.
Non? Et je travaille avec McDonald's, non? Et toi aussi, nous n'avons pas de. Le lien direct.
Je propose d'établir un lien direct.
Oui,
mais ouais, je peux être alumni, par exemple. Je peux être dans les alumni de telle société parce que je suis une ancienne de telle société.
Oui, exactement. Ouais. Et donc, j'ai un lien direct avec McDonald's, non, le profil de société McDonald's. Et toi aussi. Et donc, je n'ai pas la capacité de communiquer avec toi directement. Mais McDonald's, par exemple, a la capacité de communiquer avec.
C'est pas la société.
C'est pas la société.
C'est pas la société. C'est le groupe à
vous. Effectivement, tu proposes, quand tu dis je suis de Capgemini, LinkedIn te propose automatiquement, voilà toutes les personnes de Capgemini que nous avons, etc. Tu veux établir un lien avec quelqu'un de ces personnes-là. C'est ça qu'il fait. Mais c'est LinkedIn qui établit ça. C'est pas la société. Ou la direction de la société
par contre tu peux avoir à l'intérieur des clubs d'anciens, des alumni, de dire à des anciens, un groupe d'anciens, et par exemple si moi j'ai travaillé chez NCR à une époque, comme c'est dans mon CV, il a identifié que c'était dans mon CV, ils m'ont demandé est-ce que tu veux participer au groupe NCR en tant que groupe, mais c'est pas la société NCR. C'est le groupe.
Bon, c'est très intéressant parce que là, c'est vraiment l'organisation du travail dans le sens entre les personnes qui travaillent dans le même projet, par exemple, dans la même société.
Ça, c'est très, à mon avis, c'est très peu périlleux. Les entreprises sont en train de s'approprier de tout ça. Hein. S'approprier de ça et le privatiser pour un usage plus lointain. Ça peut se passer sur l'intranet. Bref, c'est quoi? Ils ont reproduit à l'interne dans un univers clos tout ce qui était les mécanismes ouverts à l'internet. Parce que, effectivement, pour une entreprise, c'est extrêmement dangereux de pouvoir partager d'informations comme ça, ça fait quelqu'un qui organise.
Et par exemple, les gens qui travaillent sur les logiciels, sur quelle plateforme travaillent?
Par exemple, maintenant, les entreprises sont appropriées du logiciel. Par exemple, Cisco. Linux et dans les call managers qui font fonctionner les appels téléphoniques publics. Voilà. Donc, ils ont repris Linux, ils l'ont mis dans leur machine, avec tous les mêmes mécanismes de Linux fermés, pour faire des téléphones plus performants.
Mais c'est pas ça du tout. Par exemple, moi je suis un très bon informaticien, je vous avais que Et je veux contribuer à Linux.
Mais il faut que tu aies une machine.
Quelle machine? Mais que
je connecte. Je me connecte à quoi?
À la communauté.
À la communauté, et... à la communauté.
Et c'est communauté qui est en réseau.
Bien sûr, il y a des administrateurs.
Donc c'est autre chose.
C'est autre chose. C'est une communauté de travail qui va travailler sur un sujet donné. De même que tu as... Et tu as des clubs de mathématiciens, de physiciens, etc., qui peuvent faire des recherches communes sur des sujets donnés. Par exemple, mon copain est mathématicien, il a travaillé la semaine dernière sur une conjecture, je ne sais pas quoi, je n'ai pas tout compris, je ne suis pas son niveau de loin, avec des gens qu'il ne connaît pas à travers le monde. Et ça leur arrive de faire des papiers, des articles en commun avec des gens qu'il n'a jamais vus de sa vie.
Ce n'est pas des échanges, donc. Par mail.
Non, c'est quelque chose.
Ah, si, c'est par mail. Enfin,
par mail, par
écrit. Si tu veux,
c'est-à-dire, même un espace commun.
Ah oui, mais
si. Bah, ça dépend. Après.
Bon, oui, ça dépend. Mais maintenant, il y a.
Les propriétaires, c'est des
choses. Non, avec ça,
tu ne. Il y a une règle. C'est-à-dire que tu ne mets pas. Enfin, sauf si, par exemple, il y a des sites aussi où tu mets à disposition tout ce que tu trouves, tout ce que tu recherches librement, ouvertement. Par contre, si ton objectif c'est de publier un papier, si par exemple tu prépares une HDR et tu es en thèse, et tu dois publier un certain nombre d'articles officiellement, etc., tu ne vas pas les publier tout de suite sur le web. Tu vas publier des petits bouts pour voir s'il y a d'autres gens qui vont collaborer, éventuellement t'amener des infos, hein, et après, éventuellement, tu te mets d'accord avec une ou deux personnes en disant est-ce qu'on publie, ce que vous avez fait a l'air de m'intéresser moi et on a l'air d'aller dans le même sens, est-ce qu'on peut faire un article ensemble? Et après, les échanges se font plus sur le site collaboratif, se font par mail. Tu ne vas pas mettre sur le site collaboratif des trucs sur lesquels tu es en train de chercher.
Oui, mais il y a aussi quelqu'un qui fait du programme.
Oui, non mais...
Qui fait de la production, quoi. Il n'échange pas d'impôts. Ce mec-là, il produit des lignes de programme à partir de l'espace collaboratif.
Bah, si tu regardes,
pas besoin d'avoir un rapport.
Le mieux, c'est de regarder sur les sites hackers.
Pour intervenir,
c'est là. Voilà.
Par exemple, moi, je vois ce programme-là, je dis oui, mais moi, j'ai un peu comme un wiki. Ah oui, mais là, si je fais des choses comme ça, je peux améliorer. Ah, et les entreprises essayent, parce que les gens ne sont
pas contents,
de se réapproprier de cette façon qui existe spontanément, de s'approprier, de la mettre dans un univers clos, de t'obliger à toi à collaborer spontanément pour le même salaire.
Mais par exemple, une des propositions qui ont été faites pour contrarier la détérioration de la qualité des brevets, dépose plus de brevets de merde. C'est d'impliquer les usagers, les professionnels amateurs dans l'évaluation des brevets. Ça serait un système.
Des expériences informatiques. Bon, donc, oui, mais déjà avec Linux, ici aussi, c'est la question de travail, non? Parce que c'était Creative Commons juste pour combattre, pour résister à la profession, à la privatisation des savoirs. Parce que ce type de travail dit. C'était public et par tous, mais pas pour les... Exactement. Tu ne peux pas utiliser ce type d'information de manière privatisée pour...
À des fins commerciales.
Oui, exactement. Donc, voilà. C'est là la question juridique de Creative Commons et de
Internet. C'est pour ça que Free a un procès, parce qu'ils ont... Ils ont du GPL embedded, donc ils n'ont pas pu publier leur code.
Maintenant, chez Cisco, tous les systèmes les plus sophistiqués de télécom qui ont marché des villes entières avec le téléphone, c'est mieux que ça.
Oui, mais c'est clair. Mais peut-être qu'on avait fait un séminaire sur ça en démontrant que justement la communauté.
Ils ont resté le noyau et après.
C'est-à-dire, tu te souviens, Georges, quand on avait fait ce séminaire justement pour démontrer que l'investissement sur le développement des logiciels pratiquement n'est plus accompli, car le logiciel libre est devenu pratiquement le leader. Et donc tout le processus, justement, c'est des applications. Donc, voilà, donc, pour dire comment la coopération universelle beaucoup plus forte, plus forte sur le terrain que les grandes entreprises.
On l'a fait terminer. Oui. Oui, oui, parler d'un druide.
Oui, c'est une raconte. Donc, bon, cette dernière passage, c'est juste la question de le. Donc, jusqu'à ici, avec MySpace, Facebook, c'est là. Le réseau, c'est fonctionne à travers browser ou quelque chose, c'est une interface, non? Mais je crois que dans le prochain temps, nous allons avoir des produits, des
factor forms,
oui,
des factor forms, isolate.
Oui, oui, oui. C'est-à-dire les dispositifs technologiques comme l'iPhone, comme un ordinateur, c'est pas plus un ordinateur dans lequel je peux mettre Linux ou une autre chose et utiliser un programme. J'ai pas plus la possibilité de gérer mon ordinateur comme instrument. Il devient directement lié à un certain réseau. Et c'est par exemple le Android de Google, c'est un téléphone qui est fait, produit et fonctionne totalement avec tous les mécanismes de Google. Et c'est-à-dire, quand je crée un email, ou quand je vais sur Facebook, ou quand je fais un graphique ou une photo, c'est déjà automatiquement possédé, c'est à l'intérieur du réseau social. Et donc, c'est un mouvement de le réseau en dehors du réseau dans le sens traditionnel informatique, et il devient pratiquement matériel. Non? Il devient, avec toutes les choses que nous avons, tous les dispositifs technologiques comme le téléphone, comme l'ordinateur, il est directement possédé, il est directement à l'intérieur du réseau social. Donc voilà, c'est là que sont les prochaines questions sur le réseau, sur l'organisation du travail. Seulement, c'est là l'enjeu de comprendre qui, maintenant, comme je vais sur Facebook, toutes mes photos et toutes les choses que j'ai créées sont devenues automatiquement propriétaires. Propriété de Facebook. C'est créé dans le règle du Facebook. Je prends une photo de Léo et je le cherche sur Facebook. Dans ce moment en avant, cette photo, c'est pas ma photo, c'est la photo de Facebook.
Et Facebook, le droit est là.
Ils ont tous les droits.
Exactement.
Ils peuvent utiliser Léo.
Illimité, c'est un des gros problèmes.
Mais Léo, il n'était pas d'accord.
Si Léo n'était pas d'accord, il faut qu'il aille se trouver des avocats en justice américaine et qu'il aille plaider aux États-Unis. Ouais. Ça va lui coûter une fortune. C'est un gros problème, parce qu'il a raison. Les données que tu donnes, que tu mets sur Facebook, à partir du moment où tu les as mis sur Facebook, elles t'appartiennent. Tu ne peux plus les retirer, tu ne peux plus les enlever.
Exactement. Ils
peuvent les utiliser, ils peuvent les revendre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent.
D'accord.
Ils peuvent, ils le font.
C'est plus important que les recettes, c'est-à-dire la publicité.
Quand tu souscris,
en fait, c'est là la solution totale de tous les conditions communes qui fait les gens. Et là la question. Et ici, avec le passage du réseau de Facebook, c'est-à-dire toutes les photos, toutes les choses qui s'écrivent, à ce passage de tous les téléphones, toutes les choses que j'ai fait privatement dans ma vie, ils peuvent peut-être devenir propriété de Apple ou Google ou Facebook.
Mais explique-moi, par exemple, si tu mets sur Facebook l'enregistrement d'une chanson que tu as créée,
oui,
on ne pourra plus l'utiliser ailleurs. Parce que maintenant, il appartient à Facebook.
C'est que les autres pourront l'utiliser à ta place.
C'est-à-dire qu'on
fait du commerce et vous faire.
Oui, mais toi, tu peux continuer à l'utiliser.
Ça peut poser des problèmes.
Parce que vous assignez les droits de propriété.
Non, mais les droits de propriété, à partir du moment où tu mets sur le serveur, ce sont des datas. Ce sont des données que tu mets. C'est des bits, 0,1, 0,1, 0,1. Et ça, ça leur appartient. Le fichier, tu leur donnes.
C'est sur leur plateforme.
Parce que c'est sur leur plateforme.
Bon, je comprends la question. J'ai fait une chanson. J'ai le partagé avec Facebook. La question c'est après si je peux aller à faire un disque.
Oui, parce qu'à priori, c'est pas le fichier que tu as envoyé à Facebook.
C'est cette data-là qui est stockée chez.
Mais Facebook, il peut les vendre. Les gens qui font le disque, ils ne peuvent pas rien.
A priori, ça pourrait poser des problèmes, sauf si tu as des sites collaboratifs de musique pour les amateurs, les petits groupes qui ne sont pas connus, mais qui protègent leurs droits, justement. C'est-à-dire, tu souscris, par exemple, le copain de mon fils, ils ont un groupe de jazz manouche. Moyen, et puis bon, ils souscrivent à ce serveur musical qui est d'ailleurs gratuit au début parce qu'ils veulent se faire connaître des jeunes groupes ou des jeunes chanteurs, des musiciens. Et là, c'est droit français, hein. C'est d'ailleurs France Télécom RD qui l'a mis en place, ce système. J'ai un copain qui a bossé dedans. Ils protègent leurs droits. Ils disent, bon, pour encourager les jeunes musiciens, on met à plat cette plateforme. Au début, elle est gratuite pour les chanteurs. Quoi. Et après, au bout d'un moment, ils doivent payer un abonnement pour pouvoir rester sur le site. Mais ils protègent leurs droits, sous droit français.
Mais il y a encore pire.
Vous faites terminer, s'il vous plaît, parce qu'autrement.
Même Google, il y a des jeunes de 93 qui ont envoyé leur CV pour faire du papier. Le patron de la société a été sur Google, il a tapé le nom, quelqu'un qui a été condamné pour le type
de. Oui, mais ça, c'est courant.
Son travail était terminé. Ça, c'est encore plus grave.
Oui, juste pour insister sur ce point-là.
Vous trouvez du travail chez toi.
Juste pour insister sur ce point-là, c'est la question devient qui, si j'utilise le Google Android, par exemple, dans le moment dans lequel j'enregistre mon concert, je ne sais pas, c'est tout le dispositif technologique, c'est déjà de Google. La question devient, c'est dans ce moment-là, je travaille gratuitement pour Google parce que leur enregistration de concert, c'est automatiquement inséré dans le réseau de Google. Non? Et c'est donc, il n'est pas plus aller sur le site de Facebook et charger la chose. Et donc,
c'est complètement interactif, c'est qu'à tout moment, Google peut venir voir ce que tu as sur ton téléphone. Ah oui.
Donc, c'est évident. Il y a un retour matériel de la subscription. Il n'y a pas plus quand je cherche, je fais quelque chose sur Facebook ou sur Google, qui en ce moment-là, mon travail, mes interfaces, je ne sais pas, fait partie de la réseau social de Google, je ne sais pas. C'est vraiment dans le moment dans lequel j'écris quelque chose, j'appelle quelqu'un, j'ai envie. Juste quelque chose, j'ai fait des photos. Exactement, en ce moment, c'est déjà ce que je veux. Donc voilà, c'est une question très, très.
Ouais, et par exemple, sur YouTube, si je veux enlever un film, je peux, non? Non. C'est la même chose. Là, tu peux. Donc, c'est une
démocratie. Une fois que tu l'as mis, ils peuvent l'avoir enregistré.
Bah, de toute façon, une fois que tu l'as mis, c'est pas si.
Il y a tout public.
Ce qu'il faut savoir, c'est que Google a des systèmes d'archivage assez fabuleux. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont tout gardé depuis le début sur des archives qui ne sont pas forcément visibles. C'est-à-dire que des sites qui n'existent plus, des données publiques qui n'existent plus, ils ont tout archivé.
Mais non, YouTube, c'est Google, c'est le propriétaire de YouTube. Donc,
Oui, mais je veux dire, toutes les données qui étaient accessibles par Google, elles étaient...